Aujourd'hui, c'est un jour d'assemblée générale. Et ce matin, je vous propose de reprendre une thématique que j'ai déjà prêchée parmi vous, celle de notre projet d'église. En effet, il me semblait important de ne pas présumer que tous connaissent, comprennent et sont capables d'expliquer le projet de notre Église, résumé par la formule des disciples qui font des disciples. Du coup, je vais reprendre le texte duquel j'étais parti pour expliquer ce projet l'année dernière. Un texte, ou peut-être le texte fondateur de la mission de l'Église, celui qui se trouve à la conclusion de l'évangile de Matthieu. C'est donc tout à la toute fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 16. Matthieu 28, à partir du verset 16. Donc le texte que je vais lire s'affiche, mais si vous le souhaitez le suivre dans votre Bible également, vous pouvez le faire. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » De ce texte, on retient souvent l'impératif de Jésus. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils, de l'Esprit-Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est une bonne chose de retenir cet impératif. Mais le reste du passage n'est pas là pour être simplement décoratif. L'ordre que Jésus donne, il le donne dans un contexte qui a aussi à nous apprendre. Le texte que nous avons lu relate une rencontre entre Jésus et ses disciples après la mort et la résurrection de Jésus. En regardant tous les évangiles, on trouve plusieurs rencontres comme ça, placées entre la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Mais Matthieu, dont l'évangile est très orienté sur cette notion de disciple, sur leur formation, leur travail, etc., Matthieu choisit de n'en rapporter qu'une seule de ces rencontres, et c'est celle où Jésus donne ses dernières consignes. Elle a lieu non pas à Jérusalem, où Jésus a été crucifié, mais elle a lieu en Galilée. La Galilée, c'est une région du nord du pays. Et c'est là que Jésus a commencé son ministère, c'est là qu'il a recruté ses premiers disciples. C'est un retour aux sources. Et s'ils sont là, c'est parce que Jésus leur a ordonné d'y retourner. On le voit à d'autres endroits où il leur dit « retournez en Galilée ». Et on retrouve tout le monde, les 12 disciples, moins celui qui a trahi, Judas. Et quand Jésus leur apparaît, ils se prosternent. Ils se prosternent et ils l'adorent. Ils ont une attitude de révérence. Ils reconnaissent sa majesté, sa divinité. Jésus est là. C'est ce que nous venons de faire, nous aussi. Nous sommes inclinés devant le Seigneur par nos chants. Nous lui avons dit notre joie d'être près de lui, de lui appartenir. Nous avons redit notre désir de marcher avec lui, de le suivre. Les disciples ont dû faire quelque chose de similaire à ce moment-là. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Ils ne doutent pas forcément que Jésus soit ressuscité parce que ce n'est pas la première fois qu'ils le voient. Quand on lit les rencontres que Jésus avait avec ses disciples, on voit que ces doutes ont été levés. Mais ils ont des doutes. Ils hésitent. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils vont faire à présent? Vraisemblablement, les choses ont changé. Ils ne vont plus courir sur les routes avec Jésus et sans le maître. Sans le maître, qu'y a-t-il encore à faire? Sans le maître, sont-ils toujours des disciples? C'est dans ce contexte, en réponse à ces doutes, que Jésus les envoie en mission. Face aux doutes qu'ils peuvent avoir, Jésus les envoie dans le monde entier pour que, à leur tour, ils fassent des disciples, que de plus en plus de personnes aient la joie de connaître le royaume de Dieu. Oui. Oui, ils sont toujours des disciples. La mission continue. Et du coup, tout prend sens. Ils comprennent pourquoi Jésus les a formés. C'est pour poursuivre la mission de leur maître, faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? André nous a déjà amené à y réfléchir. Un disciple, ce n'est pas seulement la personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, ou bien la personne qui adhère à des doctrines. Un disciple, pour Jésus, ça passe aussi à l'action. Un disciple, il entre dans la mission de son maître. Et à son tour, il fait des disciples. Faire des disciples, c'est quoi la recette? Comment est-ce qu'on fait des disciples? Il est intéressant de noter que dans le texte original grec, on a quelque chose qui ne passe pas, qui n'est pas rendu dans nos traductions. Dans nos traductions, on a des impératifs. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Mais dans l'original grec, on a un seul impératif et trois participes. L'impératif, c'est faites des disciples, allant, baptisant et enseignant. Allez, baptisez, enseigner, c'est ce qu'on fait quand on fait des disciples, et c'est ça la recette pour faire des disciples. Premièrement, il faut aller. Et les disciples, ils ne viennent pas tout seuls. Il faut aller les chercher. Jésus lui-même a choisi ses disciples. Il les a appelés. « Suis-moi », leur a-t-il dit. Avec eux, il a sillonné les routes d'Israël, faisant connaître son action au plus grand nombre. Et là, il élargit le champ. Il faut aller maintenant chercher des gens de toutes les nations. Il va falloir se bouger et aller chercher les disciples. Ensuite, il faut baptiser. Alors, attention à bien comprendre ce qu'est le baptême. Le baptême, ce n'est pas une simple formalité humide. Le baptême, c'est un geste qui a une signification, un geste qui montre la conversion, le désir de changer de vie, de ne plus vivre selon ce que je souhaite, mais de suivre Jésus. C'est l'engagement du croyant qui ne veut plus être sympathisant, mais qui veut dire oui, oui j'en suis, oui je veux marcher avec Jésus. Ça implique qu'entre-temps, entre le moment où on est allé le chercher et le moment où le croyant exprime cela, ça explique que cette personne ait pu entendre qui était Jésus, quelle vie il proposait. Et cela, les disciples doivent le présenter. Alors, il faut enseigner. Et ce point vient en troisième, pas en deuxième. Ce n'est pas on enseigne jusqu'au baptême. mais on enseigne les baptisés. Ça, ça nous apprend deux choses. Ça nous apprend qu'une fois baptisé, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça nous apprend aussi que ce qui décide au baptême, ce n'est pas un enseignement qu'on apprend, mais c'est une décision de foi. La décision de croire la parole de Jésus. De croire qu'en mettant notre confiance en lui, nos fautes sont effacées et que nous sommes réconciliés à Dieu. Troisièmement, donc, enseigner. Enseigner à garder tout ce que Jésus a commandé. Cet enseignement, ce sont bien des commandements, c'est-à-dire une loi. Et si on devait résumer cette loi, Jésus l'a fait dans l'Évangile, c'est le commandement d'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. Le commandement de Jésus, c'est l'amour, celui qu'il a expliqué, celui qu'il a enseigné. Non pas un sentiment flou, une excuse pour faire tout ce que je veux tant que je ne fais de mal à personne. Cet amour, c'est une attitude exigeante. Cet amour, c'est celui que Jésus est venu incarner, celui dont il laisse le mode d'emploi dans le Nouveau Testament. C'est ça un disciple. Quelqu'un qu'on est allé chercher, qu'on a accompagné et qui est venu, qui a persévéré, qui s'est engagé, qui a appris. Mais dans tous les cas, cela s'est fait jusqu'à ce qu'il devienne un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui entre dans l'action de son maître et qui fait lui-même des disciples, qui eux-mêmes feront des disciples. Etc. Vous m'avez entendu utiliser cette illustration. Quand j'étais enfant, nos parents nous emmenaient parfois en pique-nique et c'était un événement attendu. Qu'est-ce qu'on aimait ça, les pique-niques ? Et une des raisons pour lesquelles on aimait ça, c'est parce qu'il y avait toujours un paquet de chips. Et ce paquet de chips, en plus d'être très bon, il y avait quelque chose qui me fascinait parce que sur ce paquet de chips, il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips. Sur le paquet de chips qu'elle mangeait, il y avait une dame qui mangeait un paquet de chips. Et sur le paquet de chips que cette dame mangeait, il y avait encore une dame qui mangeait un paquet de chips. Et plus je regardais attentivement, et plus je voyais, il y avait toujours une dame qui mangeait des chips. C'est pareil pour le disciple. Il doit chercher à faire des disciples qui, eux aussi, feront des disciples, et ce, aussi loin qu'on regarde. Imaginez un peu, ça donne le vertige. Si vous êtes disciple, si vous êtes chrétien, c'est que quelqu'un est venu vers vous pour vous parler. Quelqu'un est venu aussi vers cette personne, et quelqu'un était encore venu vers cette personne, et on va remonter comme ça, jusqu'aux 11 ans. Ils sont partis pour faire des nations des disciples. Dernière chose qu'il faut relever de notre texte, c'est que Jésus promet qu'il sera personnellement présent aux côtés de ses disciples. Dans cette mission, il les accompagne, il les assiste. Et ça, ce n'est pas de la gnognotte. Parce que comme il le dit avant même de les envoyer, toute autorité lui a été donnée. Toute autorité. C'est plus que l'autorité de demander à ses disciples de faire ce qu'il leur a dit. Toute autorité, c'est l'autorité divine. L'autorité sur la création, sur la terre comme dans le ciel. Alors du coup, ils n'ont pas vraiment le choix, il va falloir obéir. Mais du coup aussi, si Jésus est avec eux, qui sera contre eux ? Les disciples avaient des doutes, vous vous souvenez ? Eh bien, pour lever ces doutes, Jésus leur indique que la mission n'est pas terminée, mais que c'est à eux de la poursuivre. Du coup, ils n'ont plus de raison de se douter. Ils peuvent se mettre en route. Jésus lui-même est avec eux. Mes amis, cette mission donnée aux disciples, c'est la nôtre aussi. Et c'est la nôtre également parce que c'est la mission de Dieu. J'ai découvert cette formule du théologien Christopher Wright qui m'a beaucoup plu. Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans le monde, mais plutôt que Dieu a une Église pour sa mission dans le monde. La mission n'a pas été faite pour l'Église, c'est l'Église qui a été faite pour la mission. Quand nous nous demandons quoi faire, demandons-nous ce que Dieu fait. Dieu fait des disciples. Nous devons nous mettre, notre Église, à son service et inscrire notre action dans la sienne. Concrètement, comment le vivre aujourd'hui ? Pour comprendre comment le vivre, nous devons prendre conscience de la réalité qui est la nôtre, de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un environnement hétérogène. À côté de croyants se trouvent des personnes qui ne croient pas encore. À côté de personnes qui comprennent l'appel que Dieu pose sur leur vie, d'autres se considèrent comme des chrétiens tout simples. À côté de ceux qui sont tout feu, tout flamme, d'autres ont besoin de soins. Pour savoir comment agir, il est important de prendre conscience que dans notre environnement se trouvent des personnes qui sont à différentes étapes. Et pour ceci, j'aime utiliser le schéma des cercles, qui le montre bien. À proximité de l'Église, il y a nos prochains, ceux qui nous connaissent ou ceux qui ne nous connaissent même pas d'ailleurs, et vers qui nous devons aller. Ensuite, il y a la communauté des réguliers qui viennent, qui s'attachent petit à petit, qui reviennent. Quand elles se font baptiser, ces personnes deviennent des membres qui rejoignent l'Assemblée. En grandissant en maturité, elles choisissent de se mettre à ce que Jésus appelle son école. En découvrant leur vocation, elles deviennent de véritables serviteurs qui rejoignent le moteur de l'Église. Du coup, en comprenant ainsi son champ de vision, son champ de mission, l'Église peut s'organiser et mettre en place différentes actions appropriées aux besoins des personnes qui se trouvent dans chacun des cercles. Notre premier travail, c'est d'inviter. À nous d'inviter de façon directe des personnes, des amis, de leur parler de ce que nous vivons, d'éveiller leur curiosité. À nous également de nous faire connaître par les actions que nous organisons, sociales, culturelles. Le but, c'est qu'un nombre toujours plus grand sache qu'il y a à Clermont-Ferrand une église à laquelle ils sont les bienvenus. Ensuite, notre travail, c'est d'accueillir ces personnes. Accueillir, c'est-à-dire les accepter, telles qu'elles sont, et faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise parmi nous, qu'elles aient envie de revenir. C'est l'occasion de montrer concrètement l'amour de Dieu en leur faisant une place, en construisant des liens d'amitié. C'est vivre l'accueil, quelle que soit l'origine des personnes, dans un monde qui a tant de mal, faire en sorte que tous se mélangent. Ensuite, notre travail, troisième action, eh bien, c'est de baptiser. Ne vous y trompez pas, baptiser ne concerne pas que les anciens qui descendent dans l'eau avec le candidat le jour J. Quand je dis baptiser, je parle là du cœur de l'évangélisation, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de ce que nos fautes peuvent être pardonnées, de ce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus, de ce que chacun peut être réconcilié avec Dieu et vivre en communion avec lui. C'est dire à chacun que Dieu les attend pour vivre de belles choses dans son Église. Et ça, c'est notre travail à tous. Et puis, comme je l'ai dit, notre travail ne s'arrête pas là. Une fois que notre prochain est devenu chrétien, ensuite notre tâche, c'est d'enseigner, d'expliquer ce qu'est la vie d'un disciple, la profondeur des commandements de Jésus, de donner à chacun tous les éléments nécessaires pour vivre concrètement sa foi au XXIe siècle. C'est avoir la maturité de comprendre que Jésus veut qu'on vive à son école et que vivre à son école, c'est travailler avec lui dans l'action. Et enfin, notre travail est d'envoyer les serviteurs. Que nous les envoyons au loin, ailleurs, en mission, ou que nous les envoyons auprès, parmi nous, à nous enseigner, à nous servir. Nous avons à les aider à discerner l'appel spécifique que Dieu a pour eux, la façon dont il les équipe pour qu'ils puissent répondre à cet appel. Voilà ce que nous voulons vivre. Nous voulons entrer dans l'action de Dieu, la mission qu'il mène depuis toujours. Nous voulons, nous aussi, faire des disciples. Qui feront des disciples ? Qui feront des disciples ? Et qui en feront d'autres ? Et nous comprenons cette action dans l'environnement où nous sommes, décomposée en 5 étapes. Inviter des personnes à l'extérieur de l'Église et les amener à travers toutes les étapes à en faire des serviteurs. Pour beaucoup, ce que je dis là, ce n'est pas nouveau. Mais si vous vous demandiez ce que veut dire cette formule des disciples qui font des disciples, eh bien voilà. Voilà, c'est là le projet de cette Église. Entrer dans l'action de Dieu, en invitant, en accueillant, en baptisant, en enseignant et en envoyant des disciples. Et ceci, nous voulons aussi le vivre avec Dieu. À toutes ces étapes, c'est Dieu qui agit. C'est lui qui met dans le cœur du prochain que nous invitons l'envie de venir, d'en savoir plus. C'est lui qui touche les personnes pendant nos cultes, qui donne faim, qui donne envie de revenir. C'est lui qui convainc que Jésus est le seul chemin pour être réconcilié et qui enjoint les personnes à rejoindre l'Église en devenant membre. C'est lui qui nous fait grandir, nous transformant par la sanctification et nous rendant matures pour la vie chrétienne. Et c'est lui qui équipe ses serviteurs pour le rôle qu'il veut leur confier. Inscrire notre action dans la sienne, c'est prier régulièrement, c'est nous attendre à lui pour qu'il fasse son œuvre pour laquelle nous ne sommes que des serviteurs. Voilà ce que nous voulons vivre en Église. Peut-être qu'à la vue des cercles, vous vous demandez, et moi ? Et moi, où est-ce que je me situe ? C'est une question intéressante à se poser. Si vous voulez, nous pouvons en discuter ensemble, discuter de là où vous en êtes avec l'Église, là où vous en êtes avec Dieu. N'hésitez pas à m'en parler et nous pourrons prendre rendez-vous. Peut-être n'êtes-vous pas engagé envers Dieu, peut-être venez-vous voir par curiosité. Si c'est le cas, soyez les bienvenus. Nous voulons être là pour vous, pour vous permettre de découvrir Dieu, pour vous permettre de découvrir ce qu'il veut pour vous. Peut-être êtes-vous membre de l'Église et vous vous demandez dans quel cercle vous vous placez. Vous vous demandez si vous êtes un bon membre. Ne vous en faites pas. On n'est pas là pour distribuer des bons points. Posez-vous plutôt la question, où voulez-vous être? Où est-ce que vous voulez être? Et nous vous accompagnerons pour vous y rendre. Et puis peut-être, vous êtes chrétien, mais vous hésitez à devenir membre. Peut-être vous regardez l'Église de loin, vous demandant si vous voulez participer. Peut-être vous êtes déjà membre, mais vous avez l'impression d'être un peu à côté. Si vous voulez participer à ce projet, alors venez. C'est le projet de cette Église d'accompagner ceux qui cherchent Dieu depuis l'extérieur jusqu'au centre du cercle, jusqu'à devenir moteur de l'Église. Ou en d'autres termes, de faire des disciples qui font des disciples.